Sajot et ses castors par Gray Hall, deuxième cassette, première face, page 46. Bien qu'il n'eût emporté ni provisions ni couverture, Longue Plume décida de rester là toute la nuit pour le cas où la loutre reparaîtrait. Peut-être aussi en viendrait-il une autre, car ces animaux voyagent souvent par deux. Il n'en fut rien cependant, et quand Gitchimigwon repartit le lendemain matin, l'étang était complètement rempli et déversait son trop-plein dans le ruisseau. L'entrée secrète était de nouveau invisible, tout paraissait rentrer dans l'ordre. Tout, ou du moins presque tout. Ce que Longue Plume ignorait, c'est que fou de terreur, deux des petits s'étaient enfilés dans un de ces passages que les castors, pour des motifs divers, creusent souvent sous le marécage et, parvenus au bout, s'étaient trouvés tout près du barrage. En voulant s'éloigner le plus possible de l'horrible monstre et sans savoir ni se soucier où ils allaient, ils avaient passé par-dessus le barrage et se trouvaient dans le lit maintenant vide du ruisseau, croyant toujours entendre derrière eux la respiration sifflante de Négic, la loutre. À la fin, cette impression devint si vive qu'ils se fourrèrent précipitamment dans un trou de la berge. Il était temps. À peine était-il hors de vue que la loutre passa en courant. C'était bien elle qu'ils avaient entendue. Heureusement, les jeunes castors, comme les petits de beaucoup d'autres animaux, n'exhalent aucune odeur. Même le renard, dont le flair est si subtil, n'aurait pas pu les découvrir autrement que par hasard. Négic ignora donc leur présence et continua à mettre le plus de terrain possible entre elle et l'étang des castors, où elle avait subi une telle défaite. Paralysées par la crainte de voir reparaître leur ennemi, les deux petites bêtes se blottirent l'une contre l'autre, n'osant ni continuer leur route, ni retourner en arrière. Ils attendaient leur moment, qui ne pouvait manquer de venir les chercher. Mais l'absence d'odeur qui leur avait permis d'échapper à la loutre devenait maintenant un désavantage en empêchant leurs parents, qui les cherchaient désespérément de tous les côtés et qui ne savaient même pas qu'ils étaient sortis de l'étang, de retrouver leurs traces. Dans leur émotion, eux-mêmes ne s'étaient pas rendus compte qu'ils n'avaient fait, en somme, qu'un très court trajet. Comme deux petits enfants perdus, ils restaient tristes et malheureux dans leur minuscule caverne, l'oreille tendue pour entendre la voix grave et chantante qu'ils aimaient, souhaitant avec ardeur voir apparaître la maman robuste et tendre qui avait coutume de les consoler dans leurs petits chagrins, de les tenir au chaud contre sa fourrure brune, de les peigner, de les nettoyer si soigneusement chaque jour. Elle allait sûrement venir, elle ou bien le père. Le père qui jouait si gentiment avec eux, leur enseignait à nager, leur apportait de bonnes herbes pour leur litière ou de jeunes pousses pour leur repas. Oui, il allait sûrement venir les chercher. Ici, point d'herbe parfumée, point de tendres bourgeons emplis de sève, rien que des pierres et du sable graveleux. Et ni le père ni la mère ne venaient. Ils passèrent une longue nuit, pelotonnés l'un contre l'autre, frissonnant, affamé, plein d'effroi. À un moment, une bête mince et brune, de la forme d'une belette, mais beaucoup plus grosse, glissa la tête par l'ouverture de leur cachette pour les regarder, et silencieux, retenant leur souffle, ils attendirent plein d'émoi. La bête renifla fortement, puis passa son chemin. C'était un vison qui, voyant qu'ils étaient deux, n'avait pas osé les attaquer. Un peu plus tard, ils jetèrent un coup d'œil hors de leur abri, mais s'y renfoncèrent juste à temps pour échapper à une énorme chose grise, une horrible créature de cauchemar, avec de gros yeux jaunes au regard fixe, qui s'abattait sur eux, les manqua de quelques centimètres, et reprit son vol pour se percher sur une branche au-dessus du ruisseau, où elle continua à faire le guet, avec des claquements de bec et d'affreux ricanements. Wap Hao, W-A-P, trait d'union A-H-O, le hibou rieur des bois les avait repérés et attendait patiemment un moment favorable. Chaque fois qu'il risquait un regard au dehors, les terribles yeux jaunes étaient là, tournés dans leur direction. Au lever du jour, le hibou avait disparu. Et comme l'étang de nouveau rempli se diversait par le haut du barrage, le ruisseau coulait librement et les castors partirent sur les flots à la recherche de leur maison. Si seulement ils avaient su comme elle était proche. Mais tous les souvenirs étaient brouillés dans leur pauvre petite tête. Ils étaient complètement perdus. Comme ils étaient trop petits pour nager contre le courant, ils firent ce qu'il y avait de plus facile et se laissèrent porter par lui, s'éloignant ainsi de plus en plus de leur demeure, de leurs parents, de leurs petites sœurs avec lesquelles ils avaient fait tant de bonnes parties au cours de leur brève existence. Seuls de jeunes mâles pouvaient être aussi aventureux. Ils continuaient à flotter, faibles et affamés, faute de savoir où trouver les plantes et les feuilles dont ils avaient besoin. Cependant, ils se sentaient un peu plus en sécurité maintenant qu'ils se retrouvaient dans l'eau et s'abandonnant au courant, ils poursuivaient ce voyage infructueux qui ne pouvait se terminer que d'une seule manière. À mesure que le ruisseau se rapprochait de la rivière des bouleaux jaunes, son cours devenait de plus en plus lent, de plus en plus calme, et les petits castors étaient portés doucement sur ces eaux paresseuses. À un moment, un élan, qui cherchait sa nourriture dans un endroit peu profond du ruisseau, leva la tête, les aperçut et les suivit de son doux regard, ses longues oreilles pointées en avant. Plus loin, ils croisèrent un rat musqué qui les salua au passage d'un petit cri amical. Du haut des arbres, les oiseaux les regardaient et les interpellaient. Le soleil était chaud et bon, et le monde resplendissait autour d'eux, tandis qu'ils flottaient sans but, à demi assoupis. Ils continueraient à dériver ainsi, engourdis par la faim et la fatigue, jusqu'au moment où, comme les petits castors malades, ils s'endormiraient pour ne plus se réveiller. Alors, comme ils allaient atteindre la calme et large nappe de la rivière, Gitchimigwon les aperçut. Il était revenu à l'endroit où il avait déjeuné la veille, à l'embouchure du ruisseau. Mettant sa pirogue à l'eau, il avança vers les petits castors en pagayant à petits coups légers. Ils l'entendirent, ouvrirent un peu les yeux et le virent. Cependant, ils ne semblèrent pas avoir peur quand il les rattrapa par leur petite queue noire et les déposa dans la pirogue. Peut-être ne se souciait-il plus de rien. Peut-être aussi sentait-il que cet homme ne leur ferait pas de mal, car il semble que les animaux, même très jeunes, savent reconnaître leurs ennemis. Gitchimigwon les maniait très doucement. Ils étaient si petits et avaient l'air si pitoyables tandis qu'il les tenait dans le creux de ses deux mains. Il serrait leurs minuscules pattes de devant comme si avec ses faibles petits poings, il voulait livrer un combat pour défendre leur petite vie. Mais leur tête ronde, trop lourde, s'inclinait et leurs yeux étaient fermés. Longue Plume vit qu'ils allaient mourir et en fut tout peiné, car il avait bon cœur comme beaucoup de chasseurs quand ils ont le temps de réfléchir. Il résolut d'essayer de les sauver. Il gagnait sa vie en chassant les castors pour vendre leur fourrure. N'était-il pas juste qu'en retour, il fit quelque chose pour ces deux pauvres petites épaves qui étaient venues, pour ainsi dire, échouer entre ses mains? Ayant regagné la rive, il tira de ses provisions une boîte de lait et, le mélangeant avec de l'eau, en versa un peu dans la bouche des deux castors. En maniant doucement les petits corps laineux dans ses fortes mains brunes, il sentait comme leurs petits ventres étaient plats et vides, comme leur petit cœur battait faiblement. Leurs mains minuscules s'accrochaient à ses doigts tandis qu'il leur donnait à boire, et son cœur s'attendrissait de plus en plus, bien qu'il ne sût guère ce qu'il allait en faire. Il n'avait pas de temps à perdre, car il avait promis à ses enfants, Sajo, S-A-J-O, et Chapian, S-H-A-P-I-A-N, d'être revenus à une certaine date, et il ne voulait pas les décevoir. S'il reportait les petits castors dans les temps, peut-être ne saurait-il pas retrouver le chemin jusqu'à leur maison, et s'il les laissait là, ils mourraient certainement de faim, à moins qu'un épervier, un aigle ou un poisson affamé ne les attrape pas. D'autre part, Gichiming-won avait un long trajet à faire et les emporter serait une gêne. Après tout, ce n'étaient que de petites bêtes. Oui, mais ces petites bêtes étaient si désemparées. Elles avaient tant besoin d'être secourues que Longue Plume eut l'impression que ce serait mal de les abandonner. Car les Indiens de jadis avaient en de telles matières des principes très rigides. Si la maman des castors jugeait très beaux ses petits, l'Indien, lui, ne les trouvait pas bien jolis, avec leurs grosses pattes de derrière, leurs petits corps ronds, leurs museaux épatés, qui les faisaient ressembler à des Pukwudgies ou à des Kewpies. Ce sont des sortes de petits génies indiens. Mais s'ils n'étaient pas beaux, ils n'en étaient que plus drôles, pensa-t-il. Tout à fait le genre de petite bête qu'il est amusant d'apprivoiser. Ce serait bientôt l'anniversaire de sa fille, Sajo, qui allait sur ses 11 ans. Les petits castors feraient un très joli cadeau de fête. Et quand les castors deviendraient trop grands pour servir d'amusement, on pourrait les rapporter à leur ancienne demeure. À ce moment, ranimés par le lait, tous deux se mirent à crier pour en réclamer davantage. Ah, ces voix! Elles triomphèrent des dernières hésitations de Longue Plume. Comment un homme pourrait-il abandonner deux êtres dont les cris ressemblent tellement à ceux d'un enfant, se dit-il. Et le souvenir du temps où ses propres enfants étaient tout petits passa devant ses yeux, tandis qu'il continuait à verser du lait dans les petits gosiers à vide. Sur le tronc d'un beau bouleau qui se dressait au milieu des pins, il découpa un large morceau d'écorce solide comme du cuir et en fit une sorte de boîte ou de panier léger et résistant en le renforçant avec des lamelles de bois de cèdre pour lui donner de la rigidité. Il confectionna ensuite un couvercle qui s'y adaptait parfaitement et le compléta par une anse en écorce de cèdre tressée. À l'intérieur, il disposa une litière d'herbes et de joncs et une provision de jeunes feuilles vertes qu'aiment particulièrement les castors. Puis il saisit ses protégés par leurs petites queues plates et les déposa dans leur nouvelle demeure. Les petites bêtes flairèrent la belle litière fraîche et parfumée, pareille à celle qu'ils avaient dans leur hutte. Ils reconnurent les bourgeons et les feuilles tendres dont ils avaient si grand besoin, mais qu'ils étaient incapables de trouver seuls. Et comme d'une part la voix de leur nouvel ami était douce et bienveillante, et que d'autre part leur petit estomac était bien garni, ils se sentirent subitement beaucoup moins malheureux. Ils oublièrent la loutre et sa respiration sifflante. Ils oublièrent le hibou aux yeux jaunes et fixes et au bec féroce qui avait ri d'eux dans l'obscurité. Ils se mirent à jaboter ensemble avec de petits glapissements, de petits bêlements, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis de longues heures. Et ils mangèrent, jusqu'au moment où ils furent incapables d'avaler une bouchée de plus. Quant à Gichiming-won, tout en maniant sa pirogue rapide sur le chemin du retour, il pensait avec satisfaction au cadeau qu'il rapportait à ses enfants. Le garçon, qui avait 3 ans de plus que sa sœur, y trouverait aussi sa part d'amusement. S'adressant à sa pirogue ou à son fusil, ou bien au petit castor, ou simplement à lui-même, il dit « Minotakiya, c'est bien. Kaeget Minotakiya, en vérité, c'est très bien. » Les deux petits voyageurs devaient également trouver que tout allait bien, car ils étaient très tranquilles. De fait, ils étaient fort bien installés dans leur boîte. À travers les trous d'aération, ils pouvaient entendre le chant des merles et des grives, le clapotis de l'eau voisine, le bourdonnement monotone des insectes et tous les jolis bruits qui animent une forêt. Cependant, même au milieu de ce bonheur nouveau, ils n'oubliaient pas tout à fait, ils n'oublieraient jamais tout à fait les parents si bons, l'ancienne demeure et les jeunes compagnons qu'ils avaient perdus. Par moments, tout cela leur manquait à la fois et ils se mettaient à pleurnicher en se cramponnant l'un à l'autre. Une fois pressés ensemble, L'impression de solitude s'effaçait. Alors, les petites têtes fatiguées se penchaient, les petites voix se taisaient, et les yeux ronds et noirs refusaient de rester ouverts. Puis, les bruits du dehors s'éteignirent tout à fait, leur chagrin s'évanouit, les petits castors s'endormirent. Voilà comment deux petits castors égarés furent emmenés vers une nouvelle demeure, de nouveaux amis. Comment ils virent beaucoup de choses étranges et merveilleuses dont les castors les plus avertis de leur tribu n'avaient jamais entendu parler et eurent des aventures comme jamais castors, j'en suis sûr, n'en avaient connu jusque-là. Longue Plume l'avait dit, Minotakia, c'était très bien. Chapitre 5, l'anniversaire de Sajo. Quelques jours plus tard, Sajo et Chapian étaient fort occupés à tout préparer dans la maison pour le retour de leur père. La demeure de Longue Plume était située un peu en dehors du village indien de Opipisowe, O, trait d'union P2E, trait d'union P2E, trait d'union S-O-W-A-Y, dont le nom signifie « le pays de l'eau qui parle ». Ce nom avait été donné au village à cause d'une petite chute d'eau dont le bouillonnement ressemblait à un chuchotement de voix douces et rêveuses, ce qui faisait dire aux Indiens qu'il y avait des esprits dans cette cascade. Construite avec des troncs de pin, la cabane s'élevait non loin du lac sur un monticule verdoyant. Elle était sur la lisière de la forêt, mais les alentours du camp avaient été débarrassés de la broussaille et du bois abattu, et il ne restait que quelques beaux arbres à travers lesquels on avait du lac une vue splendide. Le lac était très vaste. Sur le bord opposé, on distinguait seulement une chaîne de collines boisées aux formes tourmentées qui semblaient déferler dans le lointain bleu comme les vagues d'une grande mer sombre. Un étroit sentier en pente menait de la cabane à l'endroit où abordaient les embarcations. Là se dressait un groupe de grands peupliers, à l'ombre desquels Longue Plume et ses enfants passaient en été maintes belles journées et prenaient même souvent leur repas. Si la cabane n'était pas grande, elle avait extérieurement bel aspect, avec ses murs faits de troncs d'arbres dont le brun rougeâtre contrastait avec les lignes de mousse jaune et verte qui embouchaient les interstices. Bien qu'elle n'eût qu'une seule pièce, la cabane était encore plus jolie à l'intérieur. Le plancher en troncs solides, taillés, rabotés et joints exactement les uns aux autres, avait été si bien nettoyé qu'un de vos parquets ne pourrait pas être plus clair et plus luisant. Les trois couchettes, alignées à la file contre le mur, étaient garnies de couvertures aux couleurs éclatantes fournies par la compagnie de la baie d'Hudson. Je te rappelle que c'est cette compagnie qui tient tout le commerce dans le nord du Canada, achetant les fourrures aux trappeurs et leur vendant toutes les marchandises dont ils ont besoin. Rouges, blanches ou vertes, bordées aux deux extrémités de larges raies noires, elle mettait dans la pièce une note joyeuse. Les trois fenêtres, composées chacune d'un seul grand carreau de verre, étaient aussi nettes et brillantes que des fenêtres doivent l'être, aussi brillantes que l'intérieur d'un canon de fusil. Cette comparaison était de Chapian, pour qui elle évoquait l'idée d'une chose rigoureusement propre. C'est ainsi qu'il tenait sa propre carabine, et ce jour-là, il l'avait si bien huilée, frottée, qu'elle étincelait positivement dans son coin, en face de la porte, endroit où toute personne qui entrait ne pouvait manquer de la remarquer. Cette carabine qu'il avait eue au comptoir de la compagnie, en échange de 4 belles peaux de vison, était le plus précieux de ses biens, qui, je dois le dire, n'étaient pas fort nombreux. Sajo avait cueilli, fait sécher et coupé en petits morceaux des tiges de roseaux. Ces petits morceaux, elle les avait teints en bleu, en jaune et en rouge, puis enfilées comme de longues et minces perles de bois sur des ficelles. Plusieurs rangs de ces perles pendaient maintenant le long de chaque fenêtre. Sajot en avait combiné les couleurs de façon à former des dessins, et l'effet produit était des plus élégants. « On dirait vraiment des rideaux », pensait-elle en les considérant pour la centième fois. Sur la table, les assiettes de fer blanc, les couteaux, les fourchettes étaient disposées à leur place habituelle. Au centre trônait une grosse miche de bannock, B-A-2-N-O-C-K, le pain, nouvellement cuit, qui fumait encore et dans lequel était planté un minuscule petit sapin, pas plus haut que la main. C'était un vrai petit arbre de Noël que Sajot avait mis là pour exprimer sa joie, car elle était presque aussi contente que si la fête de Noël était revenue. Le petit poêle de fonte, qui avait été si vigoureusement frotté qu'il paraissait neuf, n'avait ni four ni pied. On l'avait donc posé sur des pierres plates. C'était un arrangement très pratique. Pour faire cuire le pain, il n'y avait qu'à poser la pâte un moment sur le fourneau, puis entre les pierres chaudes, où elle achevait de se cuire et de se dorer à la chaleur du feu qui flambait par-dessus. Sajot faisait de très bons pains, je puis vous le dire, car j'en ai mangé bien des fois. Chapian, lui non plus, n'était pas resté inactif, ainsi qu'en témoignait le bois empilé dans une caisse derrière le poêle et la peau de chevreuil, nouvellement étirée et séchée, qui s'étalait au milieu du plancher, tandis que sur le poêle, dans une immense marmite, cuisaient les meilleurs morceaux de la bête abattue par la précieuse carabine. Chapian était un beau garçon à l'air décidé, grand pour son âge, qui avait la peau cuivrée et les yeux sombres des Indiens ojibouais. Son père avait fixé ce jour-là pour son retour, et Longue Plume tenait toujours parole, pour autant que les événements imprévus de la vie dans les bois le permettaient. Chapian l'attendait donc tranquillement. Mais sa jeune sœur, les yeux brillants, sa chevelure de jais dansant en deux longues nattes sur ses épaules, ne tenait pas en place. Elle courait, sautait d'un endroit à un autre, jetait un coup d'œil au repas qui cuisait, plaçait autour de la table les gros billots de bois qui servaient de siège, ou mettait une dernière touche au rideau de perles. Chapian était assis à un endroit d'où il pouvait voir une grande partie du lac, et il guettait l'apparition du bateau de Longue Plume. Mais il avait eu soin de ne pas s'asseoir près de la fenêtre, car il ne voulait pas montrer combien grande était son impatience. Chapian n'avait que 14 ans, mais il se sentait un homme, ayant gouverné la maison depuis près d'un mois. Sajot, tout en travaillant, chantait une petite chanson. Vêtu de sa robe de tartan multicolore, ses petits pieds chaussés de mocassins brodés de perles réservées pour les grandes occasions, elle ne tenait point en place, car c'était un grand jour pour elle. Non seulement son père bien-aimé allait revenir, mais c'était aujourd'hui son anniversaire à elle, Sajot. Pauvre Sajot, elle ne recevait pas beaucoup de cadeaux depuis que sa mère était allée dormir sous les fleurs sauvages, mais elle avait encore deux poupées de bois que son père lui avait faites pour d'autres anniversaires. Comme cette année il était absent, il n'aurait certainement pas eu le temps de lui fabriquer quelque chose. Elle avait donc sorti Chilaoui et Chikani et les avait assises sur le bord d'une des couchettes. Les deux poupées n'avaient pas l'air spécialement de bonne humeur, bien qu'elles eussent, elles aussi, revêtu leur belle robe de tartan, comme Sajot, que leur teint un peu défraîchi eût été ravivé d'un coup de pinceau et qu'on eût entouré d'un petit fichu leur figure de bois. Sans doigts, sans nez et sans bouche, il faut reconnaître qu'elles manquaient un peu d'expression. Mais n'importe, force était de s'en contenter, puisque rien autre, cette fois, ne viendrait les remplacer. Du moins, Sajot le croyait, mais nous autres savons à quoi nous en tenir à ce sujet. Tout en s'affairant joyeusement, elle ne se doutait point de la grande surprise qu'elle allait avoir. Pendant ce temps, immobile à sa place, les yeux fixés sur la fenêtre, Chapian aurait souhaité que sa sœur fît montre de plus de calme et de dignité. Sans doute, pensait-il, deux événements de cette importance survenant le même jour suffiraient-ils pour troubler la cervelle d'une femme. Et voilà que soudain, son cœur à lui se mit à battre beaucoup plus vite et il dut faire appel à toute sa volonté pour ne pas se précipiter vers la fenêtre. Car là-bas, loin, très loin sur le lac, il venait d'apercevoir un petit point noir. « Sœur, dit-il de sa voix nette, en détachant les mots selon son habitude, notre père arrive. « Où, où ?» s'exclama Sajo. Et sans attendre de réponse, elle attrapa son châle, s'élança au dehors et regarda dans toutes les directions. « Où ? Montre-moi vite !» Chapian désigna la petite tache sur l'eau. « Là, dit-il, ce petit point. »« Oh !» fit Sajo d'une voix déçue. « Ce point pouvait être n'importe quoi. C'est peut-être un ours ou un élan en train de nager dans le lac. » suggéra-t-elle dans l'espoir d'être contredite. Mais avant que Chapian eût le temps d'ouvrir la bouche, une autre réponse arriva. Dans le lointain, un bruit se fit entendre. Une faible mais très nette détonation, un coup de fusil, puis aussitôt après une autre. L'oreille tendue, ils écoutèrent. Il y eut un silence, le temps de compter jusqu'à trois, et une autre détonation retentit. « le signal !» s'écria Sajo. Et Chapian ajouta posément. « Oui, c'est le signal. » Puis, oubliant son flegme, il se précipita vers la cabane en disant « Vite, préparons tout !» Et bien que la pirogue, encore distante de quelques kilomètres, ne put aborder avant une heure au moins, ce fut aussitôt dans la maison un grand remue-ménage. Ils coururent prendre sur une étagère les jarres que Sajo remplissait chaque année de confitures de fraises et de bleuets. Le bleuet, c'est le nom de la myrtille au Canada. En fait, c'était la première fois qu'elle les avait faites toutes seules, mais elle les avait réussies et pensait qu'il en était ainsi depuis des années. Ils mirent sur le feu la grande marmite à thé, ils enfoncèrent une longue fourchette dans la viande pour voir si elle était cuite, trottèrent de la table au fourneau et du fourneau à la table en s'agitant joyeusement comme l'auraient fait n'importe quels enfants, riches ou pauvres, qu'ils fussent de jeunes princes ou de simples petits indiens. Fin de la première piste de la deuxième cassette, page 64, Sajo et ses castors par Gray Hall.